Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la Fabrique de la Culture. Quel plaisir de vous retrouver le dernier mercredi du mois sur Radio B. Une fabrique remodelée avec cette année une thématique pour chaque émission. L'occasion de poursuivre notre analyse du monde de la culture sous d'autres angles. Au gré des émissions, je serai accompagnée de reporters de choc. Avec moi pour cette première de la saison, notre expert théâtre Michel Béraud. Bonsoir.
Bonsoir.
Radio B. Radio B.
On attaque fort avec une émission dédiée à la place des femmes dans la culture. Cet été, c'est la metteuse en scène et autrice Carole Thibault qui mettait les pieds dans le plat au Festival d'Avignon avec un discours énervé sur la question. Dans cette fabrique, Guillaume Lacroix, adjoint à la culture à la mairie de Bourg-en-Bresse, réagira et nous en dira plus sur la question. Nous accueillons aussi en studio Alicia Cupani, chargée de communication pour le théâtre de Bourg. Bonsoir.
Bonsoir.
L'occasion de faire le point sur la programmation, sur la question des femmes et sur quelques spectacles.
Et puis nous parlerons des Tondus, spectacle qui a ouvert la programmation 2018-2019 du théâtre, qu'il a ouvert de façon très symbolique pour un lancement de saison. Et je présenterai les femmes savantes, où la place des femmes est à l'honneur. Je vous dirai comment.
Enfin, un petit tour du côté de la musique avec la chanteuse Anne Sylvestre et vers le cinéma et la projection du film Rafiki au Cinémateur.
D'accord pour lutter contre les injustices, contre les discriminations, contre la binarité si stupide et pathétique qui gouverne notre monde contemporain si moderne comme il gouvernait l'ancien. Mais comment se fait-il que toute lutte semble écraser et annihiler la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes, et ceci depuis des siècles ? Comment se fait-il que cette lutte-là soit systématiquement écartée, remplacée par une autre lutte ? Les femmes se sont fait niquer à la Révolution française, elles se sont fait niquer pendant la Commune, elles se sont fait niquer durant le Front populaire, elles se sont fait niquer en 68, et elles se font encore niquer au Festival d'Avignon 2018, ce grand festival dont le thème revendiqué cette année est le genre ! Et dont une des seules rencontres thématiques programmées qui aborde le sujet s'intitule « Les femmes dans le spectacle vivant, doit-on craindre le grand remplacement ?» Je n'épiloguerai pas sur le concept du grand remplacement, concept xénophobe développé actuellement par l'extrême droite. C'est page 27 du programme. Et dans la totalité du spectacle vivant aujourd'hui en France, 23% seulement des subventions publiques d'État vont à des projets portés par des artistes femmes. Parce qu'elles ne représentent que 11% des spectacles programmés sur toutes les scènes. Et parce qu'elles ne reçoivent que 4 à 12% des pavés, je veux dire des récompenses. C'est pas moi qui le dis, c'est l'État lui-même. Le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Les chiffres sont sur Internet, HCE. Mais après tout, sur les scènes de l'institution, comme on dit, la part des autrices représente environ 22%. Et celle des metteuses en scène, 35%. C'est loin d'être l'égalité, c'est sûr, mais on y travaille peu à peu.
Carole Thibault, autrice, metteuse en scène, comédienne et directrice du Centre Dramatique National de Montluçon. Un extrait du texte qu'elle a lu au Festival d'Avignon cet été, où l'on s'interrogeait sur le genre. Guillaume Lacroix, vous êtes adjoint délégué à la culture à Bourg-en-Bresse. Qu'en pensez-vous ?
J'en pense d'abord qu'elle est, talentueuse et j'en pense ensuite que elle est fondée. J'en pense qu'elle est fondée, ça ne veut pas dire qu'elle résout la question de la place des femmes dans notre société aujourd'hui, mais en tout cas la campe d'une façon qui est intéressante, en tout cas clairement revendicative.
Est-ce que les revendications dont elle fait part là, dans cet extrait, vous les recevez à la mairie de Bourg ?
Les revendications, on les reçoit partout quand on est un homme aujourd'hui, finalement. C'est peut-être ça qui a d'abord changé. Ces revendications-là, avant, étaient plutôt des revendications réservées aux femmes entre elles. Aujourd'hui, les hommes les entendent. Ils n'ont pas vraiment le choix, d'ailleurs, parce que même ceux qui ne souhaiteraient pas les entendre ne peuvent pas y couper. Pour autant, moi, je pense qu'il faut, et c'est l'objet de l'événement culturel que Bourg va proposer l'année prochaine, interroger la place des femmes, c'est évident. Mais je ne crois pas qu'il faille les interroger par rapport à l'homme. J'ai cette faiblesse de penser que tant qu'on jugera l'une par rapport à l'autre, on sera en permanence dans un sujet justement d'inégalité par principe. On ne juge pas les hommes par rapport aux femmes.
Pour 2019, vous avez choisi le thème des femmes, on vient d'en parler, pour le Festival culturel de la ville. Guillaume Lacroix, vous êtes féministe ?
Non, je suis convaincu que la moitié du genre humain ne peut pas être totalement absent de la scène générale. Je suis convaincu que la culture a d'abord été fondée par beaucoup de femmes. Par ailleurs, moi, je suis véritablement convaincu que aujourd'hui, le sujet des femmes est un sujet plus que jamais d'actualité, avec un risque que j'y vois une fois de plus, c'est la femme victime. La femme victime de l'homme, bien évidemment que ça existe.
Alors, elle est victime d'inégalité, elle n'est pas forcément victime de l'homme.
Oui, mais l'inégalité, quand elle est en permanence ramenée par rapport à l'homme, pardon de le dire comme ça, en disant, finalement, le sujet n'est pas... Est-ce que les hommes se posent la question de savoir si dans la magistrature, ils sont aujourd'hui ultra minoritaires par rapport aux femmes ? Non. Les hommes ont pris acte qu'aujourd'hui, par exemple, dans la magistrature, je ne dis pas que c'est général, vous pouvez aller dans les domaines de santé, par exemple, il y a aussi une majorité de femmes. Et vous ne voyez pas des hommes dire « je me mesure par rapport aux femmes ». Je ne dis pas « je demande... »
Peut-être parce qu'ils sont plutôt majoritaires dans d'autres domaines, c'est peut-être ça aussi.
Peut-être parce que les hommes ont jamais vraiment eu à douter de leur place dans la société, les femmes semblent vouloir en douter, elles n'ont pas à en douter.
C'est un petit peu plus compliqué que ça.
Je ne vous dis pas que ça ne l'est pas, je vous dis juste que ma génération considère que les femmes devraient arrêter de douter. Elles n'ont pas à douter d'être pleinement dans la société. Alors évidemment qu'il faut bousculer, je ne dis pas le contraire, mais les hommes entre eux aussi se bousculent, je vous rassure. Ce n'est pas une corporation masculine qui s'entraide dans la vie et qui veille à se coordonner pour empêcher les femmes. Mais aujourd'hui, moi j'ai un peu de mal avec cette idée qu'il y a les femmes qu'on mesure par rapport aux hommes. Et c'est pour ça que l'événement culturel, on l'a appelé femmes. On ne l'a pas appelé les femmes dans l'égalité, on ne l'a pas appelé égalité hommes-femmes, on l'a appelé femmes, parce que les femmes sont des artistes pleines et entières quand elles sont dans la culture. Les femmes sont des êtres humains entiers qui n'ont pas à se comparer aux hommes, qui ont à être considérés comme faisant partie totalement du genre humain et ayant la même capacité que n'importe quel autre membre du genre humain.
Elles ont évidemment les mêmes capacités, pourtant leur place n'est pas la même. Ça, c'est dit dans le texte d'introduction.
Ça veut pas dire, je ne vous dis
si
pas...
Si on ramène ça à la culture, hein, si on ramène
oui,
nos
je
propos
je ne vous dis pas qu'il
culturel.
N'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on fasse la liste des inégalités, je vais y consentir avec vous. Je n'ai aucun problème à reconnaître qu'il est complètement scandaleux qu'à poste égal, dans le monde du travail, eh bien, une femme soit moins payée qu'un homme. C'est évident que c'est scandaleux. Vous dire que dans la culture, elles n'ont pas encore les places en nombre, c'est vrai, et que ça n'est pas normal, c'est évident. Mais vous dire aussi que il vaut mieux une femme excellente que trois hommes mauvais, quoi. Et qu'il arrive un moment où ma question à moi, elle n'est pas simplement de savoir si on aura gagné quand il y aura 50% de femmes dans la culture. Parce que ça ne me suffit pas comme argument.
Mais sur cette question du talent, le Haut Comité pour l'égalité a rendu un rapport en début d'année. Il y a également la question, le talent n'est pas forcément inné. Donc on n'est pas talentueux à la naissance forcément pour
j'ai
tous.
J'ai un désaccord avec vous.
Il est aussi dû à du travail.
Ah oui, sauf l'un n'empêche pas l'autre.
Sauf que dans le rapport, il est indiqué que les femmes ont moins d'opportunités de s'entourer pour évoluer dans leur travail, qu'elles ont moins de financement public, ça c'est quand même un rapport officiel, et que pour le coup, on les voit moins, on a l'impression qu'elles sont moins talentueuses à cause de ça, à cause de ce manque de financement et de soutien. Et donc concrètement, vous êtes élue, quelles sont les actions que vous menez pour les femmes ?
Il ne fait aucun doute que le talent n'est pas réservé ni aux hommes, ni aux femmes, et qu'il y a chez les femmes et chez les hommes des gens de talent. Alors, est-ce que la ville de Bourg met en place spécifiquement des choses pour les femmes ? Non, d'abord parce que nous n'avons aucune demande en ce sens. Alors, je ne sais pas si c'est par absence de besoin ou par retenue ou de peur d'avoir l'air, je ne sais pas, de quémander quelque chose. Moi, ce que j'observe quand même sur la scène de Bourg, en tout cas sur le territoire de Bourg, c'est le nombre de femmes artistes qui évoluent et s'expriment. Je n'ai pas le sentiment d'avoir en permanence dans mon bureau des hommes. J'ai plutôt l'impression d'avoir régulièrement affaire à des artistes.
Pourtant, si on fait le compte des grandes institutions culturelles burgiennes, elles sont pour la plupart gérées par des hommes. Vincent Rochelecka au Théâtre de Bourg, Gilles Garrigos à la Tannerie, Pierre-Gilles Giraud au Monastère de Broux, Xavier Marcon à la direction du service culturel. Comment on fait pour équilibrer tout ça ?
Ça ne va pas de soi. Vous prenez des exemples intéressants. Pour ce qui concerne la candidature au théâtre, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai le souvenir que le jury, il y avait 4 hommes. Il y a eu pour le poste d'administrateur royal de Broux, ça a été la galère. Notre bassin de vie n'est pas terriblement attractif en général, encore suffisamment, en tout cas pour des hauts cadres. La question est liée, quand je vous dis ça, à la question des femmes. Pourquoi ? Parce que beaucoup de hauts cadres ont du mal à venir à Bourg en se disant, puisqu'ils sont hommes dans leur tête, que va faire mon épouse et que vont faire mes enfants ? Imaginez la chose inverse. Une femme qui dit à son mari, je vais aller à Bourg-en-Bresse et tu vas me suivre pour trouver un job de peut-être cadre aussi, toi, trouver une fac pour nos enfants. Moi, je sais qu'il y a tout. Les gens de Bourg qui savent qu'il y a tout. Mais vu depuis Paris, depuis Bordeaux, depuis Marseille, ça n'est pas vu comme nous le voyons. Et donc, ça explique aussi peut-être pourquoi on a moins de candidatures femmes au départ. Parce que ce n'est pas un choix. Enfin, je vais même vous raconter une histoire que peu de gens savent. Et ça va forcément vous interpeller. Il y a eu, c'était Jean-Michel Bertrand, le maire à l'époque du recrutement, et il y a eu un recrutement pour diriger le théâtre à la suite de Dominique Ferrier. Et à ce moment-là, c'est plutôt une femme qui a été choisie. Et elle a annoncé que finalement, ce serait compliqué parce qu'elle attendait un enfant. Et donc, c'est un homme qui a été recruté derrière. La dimension de la maternité chez les femmes est aujourd'hui, et donc de l'impact de la maternité chez les femmes sur leur vie professionnelle, n'est aujourd'hui pas prise en considération dans notre pays. Pour moi, c'est ça le sujet majeur.
Et ça montre bien qu'il y a un souci.
Ah, ça,
un souci d'égalité entre les hommes et femmes. Sur le rapport de l'association HF Rhône-Alpes, 2 postes de direction sur 10 sont occupés par des femmes. 2 postes sur 10 à compétences égales.
Je ne vous dis pas que vous ne trouverez pas l'état d'exemple. Je vous dis depuis le début de cette émission que je partage ce regard sur le fait qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, les femmes sont ultra minoritaires. Et on voit bien qu'effectivement, il y a encore fort à faire sur cette question de l'accession au poste à très grande responsabilité. On voit bien que ce pays, d'ailleurs, n'a eu qu'une fois une femme première ministre. Encore, on est encore très très loin de considérer qu'on peut confier ce poste à une femme de façon naturelle. Et pourtant, on le peut. Mais il y a aussi un phénomène générationnel. Je dis juste que nous avons tous eu une évolution par rapport à cette question et que cette évolution est lente.
Un rapport du Haut Conseil à l'égalité, donc paru en janvier 2018, parle d'égal conditionnalité. L'idée, ce serait d'imposer des exigences en matière d'égalité homme-femme lors de la redistribution de l'argent public. Est-ce que ça pourrait faire partie de critères mis en place par la ville de Bourg-en-Bresse?
Moi, je suis un défenseur acharné. Je suis, vous savez, engagé en politique dans un parti qui fait de la République quasiment son fondamental unique et principal. Et je suis donc très attaché à l'équité. Je ne suis pas égalitariste. Je ne crois pas à une société où on nierait les différences. Ce que je veux dire par là, c'est que le sujet, c'est l'équité. L'idée de dire, c'est quoi qu'il arrive, 50-50, c'est idiot. Si vous avez un réservoir de 10% de femmes et de 90% d'hommes, ça ne va pas. Parce que si vous dites ça, vous dites 50-50 dans la magistrature, vous n'y arrivez pas non plus, il n'y a plus assez d'hommes. Donc, globalement, j'aime pas le sens des choses quand c'est trop caricatural, mais dire qu'il faut que nous changions nos process de réflexion et de mise en œuvre des politiques publiques quand nous le pouvons pour vérifier ou veiller à ce qu'on tienne compte des réalités, oui. Et quand je vous disais la question de la maternité, j'en fais pas une obsession, mais je mesure, pour le coup, ce que la maternité impose comme contrainte supplémentaire à une femme dans une relation de travail. Mais cette période de la maternité et ou de l'arrivée de l'enfant, elle est quelque chose que, un, les hommes ne connaîtront jamais, et que, deux, ça pose un vrai sujet dans la carrière des femmes. Et c'est souvent à un âge où justement les carrières se développent. Là, c'est pas une histoire d'égalité. Là, il y a une forme de difficulté qu'il faut compenser. Et ce serait là, pour le coup, équitable de dire on est surprotecteur pour le développement de carrière des femmes dans la période où elles sont amenées souvent à fonder des familles, pour justement éviter qu'ensuite elles traînent toute leur vie le problème de ne pas avoir été au rendez-vous qu'on a tous, globalement, on va dire entre 30 et 40 ans, qui est le moment où on est tous amenés à faire les paliers successifs qui nous amènent à nous installer professionnellement. Là, il y a un sujet.
En 2019, on l'a compris, une thématique forte, femme.
Oui.
Pourquoi pas profiter pour imaginer un festival exclusivement féminin ?
On n'a jamais raison quand on est dans l'entre-soi. Et je ne suis donc pas convaincu que, en laissant des femmes entre elles se dire qu'elles sont maltraitées par les hommes et qu'elles n'ont pas leur place dans la société, je caricature.
Pas que ça, les femmes, quand même. Elles se plaignent pas tout le temps, Guillaume Lacroix.
Heureusement. D'ailleurs, enfin, il y a aussi beaucoup d'hommes qui se plaignent, je vous rassure. Mais globalement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voulait éviter le côté 8 mars, quoi. Il y a un 8 mars, il existe. En général, les femmes organisent, veillent à ce que cette journée-là soit la journée des femmes. Là, mon souci à moi, c'est d'essayer de dire, culturellement d'abord, parce que c'est un événement culturel, de faire tomber des codes et des tabous. L'autre jour, on vient voir, on me disait, on voudrait faire parler les femmes sur les hommes, faire une émission pour faire parler les femmes sur les hommes. J'ai dit, j'en suis ravi. Mais est-ce que vous pourriez demander à les hommes de parler des femmes ? Ah, parce que ce serait peut-être pas inintéressant aussi que qu'on fasse la démonstration de la façon dont les hommes de 7 à 77 ans peuvent parler des femmes. Parce qu'il y a une évolution chez les femmes et une évolution chez les hommes. Et je crois fondamental qu'aujourd'hui, on montre que les évolutions, elles sont des deux côtés. Certes, les femmes ont pris plus vite conscience, parce qu'elles étaient principalement concernées, de la nécessité de se battre, mais les hommes sont en train de prendre conscience de la nécessité aussi de considérer ce problème-là, non pas comme un problème d'une minorité agissante et énervée qu'il faudrait calmer, mais comme un fait général de société. La violence faite aux femmes, elle changera quand les mecs arrêteront de regarder les femmes comme étant leur inférieur.
Justement, la représentation des femmes dans l'art, oui, est également une image très stéréotypée des femmes dans la création artistique. Ça a été également pointé du doigt par ce rapport. Sans révéler la programmation en cours, est-ce que vous avez déjà des idées de ce qu'on va pouvoir voir pendant cet événement ?
On va essayer de pas rester. Alors, d'abord, la culture, au travers des siècles, a d'abord magnifié la beauté de la femme. Et donc, on a souvent cantonné, donc c'est vrai, parce que les mecs étaient au pinceau, souvent cantonner les femmes dans un rôle, en tout cas sur les tableaux, magnifiés pour leur beauté, pour leur charme. Bon. Donc oui, on va sortir de l'idée qu'il n'y aurait que cet aspect de la femme, non pas objet, parce que c'était pas ça l'idée à l'époque, mais de la femme incarnation de la beauté, de la féminité et de la maternité, si on prend un peu ce que les siècles nous ont laissé comme héritage, et de sortir de ça, oui, bien sûr. Mais je pense que les femmes n'accepteraient pas aujourd'hui, et il y aura des femmes artistes, évidemment, dans c'est pas un festival fait par les hommes sur les femmes, les femmes artistes ne laisseraient pas la création être uniquement ça aujourd'hui. Mais je redis aussi, on l'a appelée femme de façon totalement neutre, parce que je pense qu'il faut qu'on sorte de l'idée qu'il y a des attributs à la femme. La femme serait la femme féminine et mère. Pour moi, la femme, c'est comme un mec, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est exactement un être humain à part entière,
donc
avec ses contradictions, ses complexités.
Donc on imagine qu'en 2020, on aura homme, l'édition homme.
Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'un jour, on puisse faire homme. Parce qu'il y a effectivement, à mon avis, de quoi dire aussi. Globalement, nous avons effectivement à nous interroger sur non pas l'un par rapport à l'autre, mais l'un et l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que les choses changent, même s'il y a des problèmes qui restent, mais qui ne sont plus les mêmes qu'il y a un siècle ou qu'il y a deux siècles, qui sont quand même moins pénibles qu'il y a un siècle ou qu'il y a deux siècles, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus acceptables. Donc on est en train d'évoluer. Et donc oui, moi demain qu'on traite des hommes comme on traite des femmes, m'ira très bien, ça veut dire qu'on aura enfin arrêté de considérer qu'on regarde la femme par rapport à l'homme. Et plus on considérera que les femmes sont victimes, plus on victimisera les femmes, moins l'égalité arrivera.
Donc Guillaume Lacroix, on l'a compris, femme en 2019, le Festival culturel de la ville, un festival pour les femmes non victimes.
Non,
femme
un festival forte. Pour les femmes.
Courageuses.
Pour les femmes qui sont diverses, et tant mieux, et qu'elles le restent, comme les hommes sont divers, et tant mieux, et qu'ils le restent. Moi, je crois à une seule chose, le genre humain. Je suis un humaniste. Et je crois que le genre humain est fait de gens très différents. Il y a une diversité absolue de l'être humain. Et donc, il y a des problèmes résiduels chez les femmes, problèmes qui restent. Et donc, il faut les traiter. Mais de là à dire qu'il y aurait une catégorie du genre humain qui serait plus faible et donc plus victime qu'une autre catégorie du genre humain, eh bien, ça ne sert pas à la cause des femmes. Et l'objet de ce festival, c'est pas de nier les problèmes, c'est pas d'encenser les femmes fortes, c'est de dire on a le droit d'être faible, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on a le droit d'être fort, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, parce qu'on est avant tout un être humain et que notre société, nos politiques publiques, l'argent public, doivent absolument tenir compte d'abord du genre humain et veiller à corriger les inégalités.
Guillaume Lacroix, adjoint en charge de la culture à la mairie de Bourg-en-Bresse. Un entretien réalisé ce lundi dans les studios de Radio B. Le festival culturel de la ville de Bourg, ce sera en mai 2019. On en reparlera. Michel, une petite réaction à ce que tu viens d'entendre ?
Eh bien, ce projet de thématique de la femme pour le mois de mai, c'est un sujet ample. C'est un sujet qui est d'actualité et il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Ceci dit, je n'ai pas bien compris quelle était l'argumentation de Guillaume Lacroix. C'est relativement confus. J'ai noté deux, trois choses qui m'interpellent. Par exemple, la question de la femme ne peut pas être ramenée à celle du doute. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Je ne pense pas que le problème aujourd'hui, c'est que les femmes doutent. En même temps, il y a quand même des inégalités, je ne sais pas si c'est ça qu'il appelle doute, qui ne descendent pas du ciel. Ces inégalités, elles sont bien générées par l'autre partie de l'humanité, les hommes, pour simplifier. Voilà, même remarque en disant sujet neutre sur les femmes.
Pour le coup, ce n'est pas du tout neutre. Et puis, au vu de l'actualité,
ça peut pas être neutre. Ou alors, on parle des humains. Voilà, comme il l'a dit à la fin, moi aussi, je suis pour l'humanité. Mais au sein de l'humanité, c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits soucis d'inégalité.
Alicia Cupani, vous êtes chargée de communication au Théâtre de Bourg. Le Théâtre de Bourg est dirigé par un homme, Vincent Rochelecca. Les quatre éditos qui introduisent sa plaquette de saison sont rédigés par des hommes. On le rappelle, sur 10 directeurs ou directrices de structure, seulement 2 sont des femmes. Le Théâtre de Bourg fait-il son travail en matière de parité ?
Cette saison, oui, en tout cas. Alors, cette saison, il y a une réelle parité dans la programmation. Un metteur en scène sur 2 est une femme. On remarque également, d'ailleurs, qu'on a des grands noms comme Jane Birkin, Emily Fleischer, qui fait partie de la compagnie Arnica avec son spectacle Buffle, et la Fatoumi, qui est une metteuse en scène également pour son spectacle Oscille, un spectacle de danse à retrouver en janvier. Raphaël Boitel, la metteuse en scène pour le spectacle Cinquième Hurlant de cirque. Il y a Rosemarie Stanley du groupe Moriarty également qui viendra avec Wati Wati Azore Band. Yolande Moreau, voilà un nom parmi tant d'autres. Donc oui, en fait, c'est vraiment une préoccupation qu'on a au théâtre et qu'a Vincent Rochelecca dans
c'est vraiment une volonté du directeur d'insister sur une programmation paritaire, 50% d'hommes, 50%
voilà,
de femmes.
Voilà, c'est une vraie volonté. Alors après, c'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir conserver avec le temps, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de projets qui sont portés par des hommes. Rappelons-le quand même, seulement 11% des femmes font partie d'une programmation dans le spectacle vivant. Donc les femmes sont quand même dans le secteur culturel, en tout cas, moins aidées, moins programmées, font moins partie des postes à direction, elles reçoivent moins de prix. Donc c'est quand même c'est au-delà des chiffres, c'est quand même aussi une question de stéréotypes. Pour moi, le spectacle vivant permet de faire ressurgir certains sujets d'actualité, comme on l'a vu d'ailleurs avec le spectacle Les Tondus vendredi dernier. Ce sont des sujets d'actualité pour essayer de faire changer les mentalités. Donc pourquoi pas passer par des metteurs en scène femmes pour le penser autrement, et puis aussi également par des metteurs en scène hommes, et puis aborder des sujets pour faire avancer les mentalités.
Vous en avez parlé, un spectacle fort pour attaquer la saison, l'étendue. Pour le coup, là, il y avait vraiment une place faite aux femmes, à toutes les femmes. Michel, tu étais au spectacle vendredi.
Oui, donc vendredi, samedi, ce spectacle, l'étendue, ouvrait la programmation 2018-2019 du Théâtre de Bourg, et on peut dire que ça commence fort. L'étendue, le titre du spectacle, fait référence aux femmes qui ont été humiliées pour avoir à la Libération, pour avoir couché avec des Allemands pendant l'occupation. Donc un lancement de saison que je trouve très symbolique. D'abord, c'est un spectacle de rue et une déambulation qu'affectionne particulièrement Vincent Rochelecca, qui essaye de développer le théâtre de rue. Et il y a une grande marge d'évolution. Un spectacle de rue donc, qui n'a pas peur des intempéries, puisqu'il pleuvait, avec un piano à queue monté sur pneus qui suit la troupe dans les rues et dans les parcs de la ville. Deuxièmement, c'était aussi un spectacle gratuit auquel ont pu assister des badauds et des travailleurs au sortir du boulot, des gens probablement qui ne seraient pas rentrés dans un théâtre. Et puis, troisième caractère un peu symbolique, c'était un spectacle fort, très physique, très sensible et sur un sujet dérangeant et peu glorieux. Alors pourquoi un spectacle fort ? Eh bien, c'est d'abord un spectacle qui nous parle d'histoire contemporaine, c'est-à-dire de la façon dont on raconte ou pas le passé, dont on tait ou dont on déforme les faits. Et puis, ce spectacle nous parle aussi de notre immobilisme, de notre lâcheté peut-être, qui est à l'œuvre encore aujourd'hui, quand des actions pas jolies sont commises sous nos yeux, dans nos villes, dans nos familles, dans nos cercles d'amis ou de camarades. Ensuite, l'étendue nous parle des jugements sans procès et des hontes jetées sur d'autres, par vengeance, par volonté de dominer. Et les femmes, bien sûr, en sont les premières victimes. Sur les femmes tondues à la Libération a été jetée une chape de honte, une humiliation publique, et par-dessus, une chape de silence gênée et gênant. J'ajoute une chose, le spectacle m'a interrogé sur la place du désir et de l'amour dans la guerre, au-delà des barrières qu'on peut mettre entre alliés et ennemis, barrières que le peuple subit. Est-ce qu'une femme peut avoir du désir pour un jeune homme, s'il n'est pas de son camp ? Eh ben non. Et finalement, d'abord, parce que c'est une femme. Bien sûr, des relations intimes entre ennemis sont mal acceptées, mais dans un contexte de victoire contre l'ennemi, qui, il faut bien le souligner quand même, durant la Deuxième Guerre mondiale, a été particulièrement terrible, ben les femmes qui ont couché avec un Allemand ont été humiliées, violentées, pour avoir commis une trahison symbolique, mais surtout pour avoir exercé la liberté de leur corps. Il fallait montrer que la virilité reconquise avec la victoire n'était pas qu'une parole. Ben c'est tout ça qu'a montré ce spectacle vraiment magnifique.
Un vrai gros coup de poing pour ma part aussi. Hein. J'ai retenu mes larmes pendant les 10 dernières minutes. Puis j'ai pas pu m'en empêcher. Hein. La dernière scène, très beau texte déclamé par la comédienne, ça m'a achevé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré comme ça. Quand on étudie les tragédies grecques, on apprend le concept de catharsis ou ce moment de purification de l'âme par le biais du spectacle déroulé devant nous. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Alors moi, je l'ai vu samedi dans la cour de la mairie et j'étais pas seule, nous n'étions pas seuls à pleurer, à avoir le cœur serré. Le public nombreux était lui aussi très ému. À nouveau, je salue la programmation rue du théâtre qui permet à plus de public de vivre des moments comme ceux-ci. Alors quand on va voir des spectacles en salle, pour le coup, on constate qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans la salle. Alicia Cupani, en tant que chargée de communication, est-ce que vous avez des objectifs précis sur les publics à conquérir ?
Pour moi, l'objectif principal, c'est toujours d'essayer de s'ouvrir à de nouveaux publics de manière générale, que ce soit les hommes ou les femmes. Après, de manière générale, c'est vrai que dans la culture, de manière générale, le public est relativement plus féminin. Donc c'est pas.
Est-ce que les hommes pourraient être une cible potentielle ?
Peut-être. Après, ça fait pas partie de nos axes particuliers, et tout comme ça ne ferait pas partie de nos axes non plus de cibler les femmes si c'était majoritairement masculin. Après, je pars du principe que ça dépend de la sensibilité de chacun, de peut-être des spectacles qui attirent plus certaines personnes que d'autres. Après, pour moi, le spectacle L'Étendue, c'était quand même un spectacle de manière générale qui n'était pas adressé qu'aux femmes, qui était adressé quand même à tout le monde. Ce que je trouve intéressant avec ce spectacle, c'est que, certes, on parle de l'histoire horrible des femmes tendues pendant la libération, mais c'est aussi un sujet de plus général sur la condition de la femme. Vous l'avez dit, beaucoup de personnes ont pleuré. Ça montre bien que ça nous touche quand même au fond de nous sur des choses que chacune peut vivre au quotidien, sur des questions de liberté, de désir, vous l'avez dit, d'appropriation du corps de la femme. Donc voilà, pour moi c'est ça, pour moi l'objectif premier, c'est plutôt de faire réfléchir, d'amener les gens, peu importe leur sexe, à venir voir des spectacles et de les faire réfléchir sur la condition de la femme.
Un homme conquis, il y en a un autour de cette table, c'est Michel, conquis par le théâtre, hein, j'entends. Tu aimes en parler. Place aux femmes savantes, un spectacle à voir au Théâtre de Bourg les 18 et 19 octobre prochains.
Oui, donc très prochainement, nouveau spectacle de Molière. C'est d'ailleurs l'une de ses dernières grandes pièces, Les femmes savantes, entre Les fourberies de Scapin, qu'on a vu il y a trois ans, et Le malade imaginaire. Elle a été jouée la première fois en 1672, hein, je le dis non pas parce que je suis un érudit, mais parce que ça fait 346 ans. Molière a 50 ans à l'époque, c'est 11 mois avant sa mort, donc c'est une pièce de maturité. C'est aussi une pièce en alexandrin, une comédie destinée, comme aimait le faire Molière, à pourfendre les travers de ses contemporains. Et 13 ans plus tôt, il avait dans Les précieuses ridicules, il s'en était pris à la préciosité justement, et dans Les femmes savantes, il reprend le thème, mais en 13 ans, la société de Louis XIV a évolué, la préciosité aussi, et bien sûr Molière.
Donc qu'est-ce qui a changé chez Molière ?
Ben, il raille désormais ces gens qui étalent leurs connaissances, les femmes surtout, en l'occurrence, qui non seulement soignent leur vocabulaire et leur grammaire, ça c'était l'objet des précieuses, mais aussi qui se piquent de toucher à la philosophie et aux sciences. La pièce se passe dans une famille, on retrouve le personnage de manipulateur pervers, c'est plus Tartuffe, mais cette fois c'est Trissotin. On retrouve le thème récurrent du mariage forcé et puis celui des rapports hommes-femmes. Cette fois, ce sont les femmes qui dirigent la maison.
C'est une pièce féministe alors ?
Ben, c'est une pièce qui est assez ambiguë en fait sur son caractère féministe. Bon, il faut déjà se garder de faire de l'anachronisme. La place de la femme à l'égard de l'homme était bien sûr très inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, mais aussi très différente. On ne peut reprocher à Molière de ne pas être clairement pour l'égalité homme-femme. On peut signaler pourtant que dans cette pièce, il semble dénier aux femmes le désir d'être trop savantes. Donc, de ce côté-là, c'est pas très féministe. Mais c'est cette ambiguïté et ce thème de la place de la femme dans la famille, notamment, dont la Compagnie du Détour s'est emparée dans sa mise en scène des femmes savantes qui sera présentée au Théâtre de Bourg à la mi-octobre. D'abord, les 13 rôles de la pièce sont tenus par 5 comédiennes, que des femmes. On les voit changer de costume, de perruque, de maquillage à vue sur les côtés de la scène, et ça va très vite. Le matriarcat de la maisonnée est ainsi poussé à l'extrême, de façon très jubilatoire. Et tout le monde est égratigné, les femmes ridicules avec leur attachement à la belle science dépourvue de sens, le manipulateur trissotin, mais aussi bien sûr les hommes soumis et plutôt ouverts d'esprit. Et puis, les 5 comédiennes commencent par donner quelques clés en forme de rappel sur la pièce. Et bien sûr, les 5 ne sont pas d'accord entre elles. Avec ce préambule, la compagnie donne le ton, elle prend ses distances avec un jeu classique, en s'adressant directement au public. Mais en même temps, elle introduit d'emblée du burlesque, tout en restant, bien sûr, fidèle au texte de Molière. Et elle montre aussi qu'une pièce comme celle-ci peut et doit avoir plusieurs lectures.
Michel, c'est une compagnie que tu connais ?
Ben la Compagnie du Détour, ça fait une spécialité du théâtre burlesque. Et on l'a déjà vu, effectivement, sur Bourg. Et environ, il y a plusieurs années, avec une pièce qui tourne toujours, qui s'appelle « Modeste proposition pour remédier à la trop forte croissance de la population mondiale ». Et puis on l'a vu l'année dernière à Attigna en 2017 avec ce même femme savante au festival Théâtre sur un plateau. Donc le jeu est très énergique, ça bouge, ça s'agite, alors qu'au départ les femmes savantes est une pièce où ça disserte beaucoup et où il y a peu d'action. Et puis j'ajoute que le choix du décor contribue à donner un vent de folie à la farce de Molière. Tout se passe dans une cuisine contemporaine, tout équipé, où blender et mixeur font entendre leur voix, et où la crème fouettée et le chocolat ont autant de place que la grammaire de Vaugelas ou les vers minables de Trissotin. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien parce que la cuisine, c'est la metteur en scène qui l'explique, Agnès Larocque, la cuisine, à l'inverse des salons froids et désincarnés, est un espace concret, banal, très fréquenté, où il se passe et où il peut se passer beaucoup de choses, ce qui permet toutes les inventions burlesques. Et puis aussi la cuisine, c'est un lieu féminin, c'est le domaine de la femme au foyer, c'est donc à la fois un lieu d'asservissement de la femme et c'est un lieu de contrôle et de pouvoir. C'est de tout ça aussi que nous parle ce spectacle proposé par la Compagnie du Détour dans Ces femmes savantes. Donc au final, une pièce très classique, servie par une troupe en pleine forme, un jeu d'une grande précision, précision imposée par la langue en alexandrin et par une mise en scène déjantée où les gags sont réglés au millimètre.
On rappelle les dates, Michel ?
Les 18 et 19 octobre à 20h au Théâtre de Bourg, plus une séance scolaire le vendredi 19 à 14h qui est ouverte au public.
Alessia Cupani, quelque chose à ajouter sur le spectacle ?
Je pense que vous avez bien résumé en tout cas l'âme de ce spectacle. Ce que je trouve intéressant quand même dans le choix de ce spectacle, c'est que c'est une des seules pièces de Molière qui parle quand même principalement des femmes, que c'est vraiment les femmes les personnages principales. Après, je trouve qu'Agnès Larocque a vraiment réussi à revisiter de manière brillante et très contemporaine cette pièce, avec déjà le choix des actrices qui incarnent des rôles masculins. Donc ça permet aussi d'avoir ce côté burlesque et ce côté parodique qui permet de prendre de la distance avec la pièce. Et puis voilà, le choix du décor, c'est très bien interprété, c'est très drôle. Voilà, c'est à partir de 12 ans et vraiment, je vous invite à aller le voir.
Alessia Cupani, vous restez avec nous. On écoute Le Cheveu Blanc, Loïc Lantoine et le Very Big Experimental To Be Free Orchestra.
Je courais très cheveux blancs de la plus belle femme du monde. Quand tout à coup, elle s'est retournée. La première fois que je l'ai vue, elle était grande. La deuxième fois que je l'ai vue, elle était immense. Je ai bafouillé que chez moi, tout est à prendre. Et si je tends une main qui tremble, quand même je danse, quand même je danse, quand même je danse, quand même je danse. La troisième fois que je l'ai vue, j'ai cru rêver. La quatrième, j'en ai pleuré, j'étais tout nu. Et quand j'ai chanté « Vive la vie » d'une voix pavée, j'ai presque pu compter ses dents. Elle a souri, tout cru, tout bu, tout bu, tout cru, tout bu, tout cru. Je courais très très vite après le deuxième cheveu blanc de la plus belle femme du monde. Quand tout à coup, elle s'est retournée. La cinquième fois que je l'ai vue, ça j'ose plus le dire. La sixième fois que je l'ai vue, c'était chez nous. On s'est juré les mille choses dans un fou rire. Dans ses yeux j'ai vu toute ma vie. Et la prochaine, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. La septième fois que je l'ai vue, on fabriquait. La huitième fois que je l'ai vue, c'était demain. Alors je souris comme un con, qu'est-ce que c'est bon. Je passe la main dans ses cheveux pour la cueillette. Madame, ma femme, madame, ma femme, madame, ma femme. Je courrai toute ma vie après chacun des cheveux blancs de la plus belle femme du monde. Parce que tous nos jours, je vais la regarder.
Loïc Lantoine sur Radio B 90 FM dans la Fabrique de la Culture et bientôt à Bourg sur la scène du théâtre. Alicia Cupani, vous êtes chargée de communication au théâtre. En quelques mots, pourquoi faut-il aller voir ce concert vendredi 5 octobre ?
Parce que c'est une super découverte pour ceux qui ne connaissent pas et c'est vraiment quelque chose à revoir lorsqu'on connaît déjà. Il y a un très, très bon mélange entre à la fois la voix rocailleuse et le côté très poétique de Loïc Lantoine et puis l'énergie et voilà, l'explosion du Very Big Experimental To Be Free Orchestra. Vraiment, c'est à ne pas manquer si vous en avez marre d'écouter toujours la même chose et que vous voulez faire une super découverte. N'hésitez pas, c'est vendredi 5 octobre à 20h.
Il est temps de réserver vos places. Alicia Cupani, merci d'être venue dans la Fabrique. Belle saison.
Merci.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Sur son site internet, dans sa biographie, Anne Sylvestre écrit: première fille après deux garçons, sa naissance fut très bien accueillie et elle n'a jamais, par la suite, regretté d'être née femme. Anne Sylvestre, c'est la chanson française comme on l'imagine, celle des années 50, celle de Barbara, de Brel ou encore de Georges Brassens. La Brassens en jupon, c'est d'ailleurs le surnom qu'on lui donne. Il faut dire qu'Anne Sylvestre, c'est une sacrée femme. Artiste, chanteuse, productrice, compositrice depuis 60 ans. Une belle occasion pour organiser une tournée intitulée 60 ans de chansons déjà. Anne Sylvestre, vous la connaissez peut-être pour ses fabulettes, des chansons pour enfants pas gnangnan. Anne Sylvestre, c'est aussi une voix, une plume, des mots pour les femmes.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessein, quoi, il n'est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper, juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure, petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure, petit voisin, petit professeur, main baladeuse, petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite, elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier, juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade, petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermer les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance, et trembler qu'une fois de plus il recommence. Inconvenance. Quoi, si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper. Non, c'est vrai, il n'est pas un monstre, et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer, juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Anne Sylvestre. Je la connaissais très peu avant de préparer cette émission, je l'avoue. Alors, je l'ai écoutée parler dans L'Heure Bleue sur France Inter. Elle se confie à Laure Adler. C'est là que j'ai appris qu'elle était la fille d'un des agents les plus importants de la collaboration française, Albert Begras. Sa sœur, Marie Chèque, s'écrira d'ailleurs l'histoire de cette famille rendue silencieuse par le secret d'un père emprisonné à la fin de la guerre et d'un frère mort dans un bombardement. Si Anne Sylvestre avoue ne pas avoir su parler de cette histoire, ne pas avoir pu en parler peut-être, elle a su écrire autour de thématiques fortes comme le choix d'avoir un enfant, de le garder ou non.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège, ou quel doute sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savait-il que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savait-il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct, je te résiste. Depuis si longtemps, j'existe. Depuis si longtemps, je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui, je te refuse. Qui sont-ils, ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne, et j'estime qu'il y a bien de victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort et c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Anne Sylvestre, une artiste qu'il me semble essentiel de découvrir, et comme toujours, c'est mieux sur scène. Samedi 13 octobre, elle sera au théâtre de Lons-le-Saunier, accompagnée par 3 musiciennes. Elle reprendra ses plus beaux textes. « un agenda forcément consacré aux femmes, on n'allait quand même pas sortir de la thématique.
Eh bien, je rappelle les femmes savantes, 3 séances au théâtre de Bourg, les jeudis 18 et vendredi 19 octobre. Plus tard en novembre, un autre spectacle avec le témoignage d'une déportée de l'Inde, de Mataflon, qui est mise en scène avec simplicité et une grande sensibilité. Beaucoup d'émotions avec ce texte, témoignage, de texte de femme qui dit ce qu'elle a vécu dans les camps et après, dans ce milieu du XXe siècle. C'est du 9 au 25 novembre dans divers lieux du département de l'Ain, dans le cadre de terrain de jeu, et ça s'appelle... Et ça s'appelle, j'ai perdu le nom, je ne l'ai pas noté.
Moi non plus, je ne me rappelle pas du nom, Michel.
Avant la nuit, voilà.
Avant la nuit. Et puis une exposition photo.
Et une exposition intitulée « Un air de famille » à partir du 20 octobre à H2M. Donc ce sont des photos, mais pas que. Il y a des vidéos, il y a des textes, etc. D'une douzaine d'artistes, majoritairement des femmes, qui proposent leur vision sur les questions de transmission, les questions de la mémoire et du culture familiale, avec donc...
C'est pas très fréquent, mais il y a pas mal de femmes représentées dans cette
exposition. Voilà, c'est ça, c'est une majorité de femmes, ce qui n'est pas bien fréquent, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est de fin octobre jusqu'à fin janvier à H2M, on aura le temps de la voir. Élodie, du côté des salles obscures.
Alors Michel, est-ce que tu connais le test de Bechdel ?
Eh bien non, tu vas me dire ce que c'est.
Alors c'est un test sur Internet qui recense les films selon 3 critères. Il doit y avoir au moins 2 femmes dans le film. Ces 2 femmes doivent se parler d'un sujet qui ne concerne pas les hommes. Les journalistes du site Polygraph se sont lancés le défi de passer à la moulinette plus de 4000 films pour des résultats assez effrayants. 40% des films ne passent pas le test.
Ah oui, 40%, mais comment on peut expliquer ça ?
Plusieurs explications à ce gros problème sur le site de Polygraph. La première, selon eux, ce serait que la plupart des équipes qui réalisent, produisent et investissent de l'argent dans des films sont exclusivement masculines. Voici le petit test qu'ils ont réalisé. Lorsque l'équipe est composée que d'hommes, 53% des films ne passent pas le test. Exemple, Ocean's Eleven, Mission Impossible ou même Toy Story. Lorsqu'il y a une seule femme dans l'équipe des scénaristes, 38% des films échouent. Exemple, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et même Ce que les femmes veulent, un film censé parler des femmes. Et enfin, lorsque le scénario est seulement écrit par une ou des femmes, 100% de réussite.
Ah,
exemple, Twilight, eh oui, ou encore Mariage à la grecque. Alors c'est très très drôle, hein, je vous conseille ce film. Les antiféministes vont encore dire que ça part trop loin, qu'on n'est pas obligé de tout analyser, mais quand même c'est assez parlant de voir que les femmes ne sont pas représentées au cinéma et que quand elles le sont, elles ont peu de dialogue ou elles parlent d'hommes. Et en plus de ça, il faut forcément qu'elles soient jeunes et jolies.
Mais il n'y a pas qu'Hollywood dans la vie.
Et heureusement.
Yes. Make a pact that we will never be like any of them down there. Instead, we're gonna be something
real.
Yes, something real.
Yeah. Sitting at the corner, me and Susie know. We ain't got no worries. We are looking like the order.
Il y a le jeune cinéma et des productions qui arrivent d'autres pays. C'est le cas du film Rafiki de la réalisatrice Wanuri Kayou, projeté au Cinémateur dès ce soir et pour 15 jours. Le pitch, 2 jeunes femmes qui ont un coup de foudre l'une pour l'autre au Kenya, où l'homosexualité est passible de plusieurs années d'emprisonnement. Ovationné à Cannes, interdit au Kenya, d'après Télérama. Alors, j'ai pas vu le film, mais la bande-annonce que vous entendez laisse présager un film énergique qui me donne très envie d'aller au ciné. Rafiki, du cinéma venant d'Afrique, jeune, dynamique et qui met des femmes en avant. C'est avec Le Cinémateur à partir de ce soir, mercredi 26 septembre et jusqu'au 9 octobre.
Just a typical Kenyan girl.
clap de fin pour ce premier numéro de la saison. Le mois prochain, on parlera du lien entre l'histoire et la culture avec l'interview de Guillaume Bertrand et de ses compagnons de jeu pour le spectacle Tarquise et un focus sur Marc Namour. Merci aux personnes qui ont contribué à cette émission. Merci Michel.
Merci Élodie.
Et merci Pauline à la réalisation. Restez avec nous sur Radio B. Marie et Gérard vous emmènent en balade musicale. C'est tout de suite et c'est Vendeste.